Ce que ça m'apporte, surtout la photographie, ça m'apporte beaucoup de paix quand je la pratique. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment la photographie pour cette dernière étape un peu de ma vie. Elle m'a juste apporté l'alignement qu'il me fallait entre moi et mes œuvres. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Geneva et bienvenue sur Sebeni Ni Tama. Sebeni Ni Tama, c'est l'endroit idéal pour tout ce qui est bien-être et développement personnel. Ce sont des interviews inspirantes. On nous parle aussi littérature, art, culture, activisme, voyage, comme outil d'épanouissement personnel. Nous encourageons l'amour et la connaissance de soi. Je discuterai avec des invités rafraîchissants qui partageront leurs plus grandes victoires, mais aussi les enseignements tirés de leurs plus pleines défaites. Nous croyons sans l'ombre d'un doute qu'il est important de raconter son histoire, qu'elle est célèbre à la fois, mais sans que soi, peut-être une source d'inspiration. Ces conversations intimistes pourront facilement résonner avec tout un chacun. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sebeni Ni Tama aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis avec Ariane. Ariane qui est une multi-artiste. En effet, il s'agit d'une littéraire, donc elle est passionnée de littérature. Il s'agit également d'une danseuse et professeure de danse et aussi d'une photographe. Alors elle va parler en profondeur de tous ses arts et de ce que ça implique pour elle, de ce que ça signifie pour elle. Et on va également parler de son engagement à travers ses arts. Au-delà de ça, elle va nous donner des conseils pour tout un chacun, ces personnes qui ont une vie très chargée, très riche en projets. Et j'ai avec nous ses doutes, valeurs. Bonjour Ariane, est-ce que tu pourrais commencer avec une introduction personnelle? Dis-moi un peu d'où tu viens. Je sais que tu fais énormément de choses et que tu as beaucoup de passions. Est-ce que tu peux brièvement aussi les partager avec nous pour commencer?
Alors, bonjour, je te remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est vrai que c'est pas très très souvent que je fais ça, donc merci beaucoup en tout cas. Donc, moi, c'est Ariane Mawafo. Je suis camerounaise, je viens du Cameroun et je suis ici à Genève depuis 2011. Voilà, là je viens d'achever un master en français et actuellement je travaille en tant qu'assistante coordination pour la scène littéraire, une structure qui fait dans la promotion des écrivains africains et afro-descendants engagés. Donc on remet un prix chaque année. Et là, on a déjà fait la troisième édition et on est en route pour la quatrième édition. En parallèle, je fais énormément effectivement de choses, mais on va dire je suis une artiste lover. Voilà, je suis une grande amoureuse des arts, de tous les arts vraiment. Et l'un de ces arts en fait qui me passionne le plus, c'est la danse. Donc en parallèle, je suis danseuse. Je donne des cours de danse hip-hop, particulièrement ici à Genève depuis 2012 aussi. Mais avant aussi au Cameroun, je donnais pas mal de cours. J'ai fait partie de plusieurs compagnies de danse au Cameroun et puis aussi ici, j'en ai créé. Je danse aussi les danses traditionnelles camerounaises en semi-professionnel. Et puis voilà, enfin, j'ai énormément de passion pour la danse qui m'a conduit par exemple à créer une association, On est ensemble Suisse, avec un ami, Yvan Larson, pour partir au Cameroun, échanger avec des danseurs, enfin des danseurs sur place, créer un échange entre des danseurs de Suisse et des danseurs du Cameroun. Parce que j'avais remarqué qu'on avait vraiment beaucoup de choses en commun. Je connais le milieu hip-hop camerounais, je connais le milieu hip-hop genevois. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre les deux en commun, parce que les deux ont une histoire semblables et ce serait bien si on peut mettre les acteurs vraiment en présence pour qu'ils puissent discuter directement sans qu'il y ait un intermédiaire de leur parcours, en tout cas dans le domaine des danses urbaines. Voilà. Et depuis quelque temps, je me suis aussi lancée dans la photographie et j'affectionne particulièrement les photographies de la vie quotidienne, en quelque sorte. Voilà, j'aime bien saisir un peu des moments comme ça, enfin, des moments très brefs où il y a quelque chose qui se passe. Souvent, je ne me rends compte qu'une fois à la maison, au moment de trier, enfin, qu'il y a eu quelque chose de bien qui s'est passé. Je fais aussi des shootings et puis des photographies d'événements. Donc voilà, je me suis beaucoup intéressée à la photographie et j'ai décidé d'y aller à fond. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Enfin,
Non, mais
voilà, je suis
c'est pas mal
vraiment.
déjà, t'inquiète pas.
Ouais. Voilà.
C'est vraiment beaucoup pour une seule personne.
Ouais.
T'as testé déjà pas mal de choses.
Ouais.
qu'on va approfondir au fil de la conversation. Par exemple, je sais que tu viens de dire que tu as fait des études de lettres et que tu travailles pour la scène littéraire. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la philosophie de la scène littéraire et sur ton travail et ce qui t'inspire particulièrement au sein de cette structure?
Donc, la philosophie de la scène littéraire, c'est vraiment de récompenser des écrivains, enfin, qui se sont vraiment illustrés, on va dire, enfin, d'une certaine manière, par leur écriture. Vraiment, c'est comment est-ce qu'ils ont décidé d'aborder des problématiques sociales, des problématiques économiques, enfin, politiques, souvent très, très, très graves. En fait, et de quelle manière ils décident de l'écrire, en tout cas dans leur roman. Donc, avec la scène littéraire, vraiment, c'est comment dire, c'est vraiment des lecteurs mécènes qui se rassemblent, qui sont, c'est depuis 2015 que ça a été créé, qui sont rassemblés, et puis ce sont des lecteurs de nationalités diverses, en fait, qui sélectionnent des livres qui les ont vraiment intéressés. Et qu'ils décident en fait de récompenser parce que voilà, ces livres-là en tout cas ont d'une certaine manière mis en exergue un peu enfin, ces problèmes-là qu'on rencontre beaucoup sur le continent africain. Et moi, c'est beaucoup ce qui m'a plu là-dedans parce que, ben, vu que enfin, avec mon master en lettres, j'ai beaucoup eu un parcours académique. On va dire très typé franco-français. Voilà, on a beaucoup abordé des auteurs européens et je trouve qu'on ne connaît pas très bien les auteurs africains ou afrodescendants et je trouve ça extrêmement dommage. Donc, faire partie de la scène littéraire, ça s'inscrit en droite ligne avec mes propres convictions, c'est-à-dire qu'on a une belle littérature en Afrique et qu'il faudrait pouvoir la promouvoir. Sur la scène internationale, vraiment le plus loin et le plus longtemps possible. Voilà, donc. Et puis, dans mon propre travail, je m'occupe, je suis un peu la petite fourmi qui s'occupe un peu en arrière-fond de faire que tout rentre bien dans une petite case au moment de la remise du prix qui se déroule en général en juin, voilà, de chaque année.
Tu es camerounaise et tu vis en Suisse depuis déjà pas mal d'années. Là, et cette passion est venue lorsque tu as déménagé du Cameroun à la Suisse, ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà lorsque tu étais au pays?
Ah non, non, alors c'était vraiment quelque chose que j'avais déjà profondément ancré en moi au pays, parce que par exemple au pays, je faisais déjà partie d'une association, Urban Zone Colors, qui faisait justement la promotion des danseurs urbains sur place. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà au fin fond de moi, qui a vraiment juste complètement explosé ici, et qui a encore plus explosé avec la rencontre avec la présidente de la scène littéraire, Maître Agnès Dazois. Et avec la rencontre avec beaucoup de gens en fait sur mon parcours, donc non vraiment, c'est quelque chose je crois que, enfin, j'ai grandi dans un environnement entouré de livres. Ma mère, elle est prof de français de formation, donc voilà, elle avait déjà énormément de bouquins chez elle. Et moi, j'ai beaucoup lu, voilà, vraiment j'ai beaucoup lu. Mais c'est vraiment une fois que je suis arrivée, enfin, au lycée. L'équivalent du collège ou du cycle ici, non, du collège, voilà, ici. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose jusqu'à ce qu'on lise pour la première fois le livre d'une écrivaine camerounaise, Delphine Zanga-Tsogo, Vie de femme. Et le livre, en fait, parlait de problématiques féminines camerounaises, donc de femmes comme moi. Que je pouvais presque carrément connaître parce que c'était ma mère, c'était ma tante, c'était la voisine, donc c'était vraiment leur problème à elles, des problèmes très afro-africains. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce qui m'appartenait à moi parce que je trouvais que son discours me parlait plus que par exemple un livre de Molière ou je sais pas moi, enfin voilà. Enfin, je comprends Molière, je comprends, il a aussi abordé beaucoup de problématiques super intéressantes, mais elles n'étaient pas dans mon domaine à moi, en tout cas d'action ou d'influence. Enfin,
Oui, je
donc,
comprends parfaitement. Mais attends, est-ce que tu es
voilà.
en train de me dire que au lycée, tu as étudié un seul livre d'une auteure camerounaise?
Non, alors non, on n'a pas étudié un seul livre d'une auteure camerounaise. Je sais qu'on a étudié aussi, on a étudié, en tout cas, je sais que dans mon parcours au lycée, j'ai étudié à tout casser trois romans. Voilà, trois romans donc deux d'auteurs camerounais, Mongo Betsy et Delphine Zanga-Tsogo, et puis un de d'un auteur sud-africain, Joseph Ngwe, je crois qu'il était même camerounais aussi, je ne sais pas exactement, qui écrivait en tout cas sur l'Afrique du Sud avec une pièce de théâtre appelée La Croix du Sud. En tout cas, sans les trois dents, je me rappelle. Je sais qu'il y a le livre de la première femme camerounaise, en tout cas celle dite comme étant la première femme camerounaise à écrire un roman. Le titre du livre, c'est Sous l'orage, je me rappelle plus non, Sous la cendre, le feu. Voilà, c'est Sous la cendre, le feu, le titre de son roman. Et il y avait Sous l'orage aussi, qui était pas mal étudié. Mais vraiment, les trois que moi j'ai eu dans mon parcours, et c'est très peu, alors que vraiment
Alors, t'as fait
j'ai
toute ton
eu tous
éducation au
les autres.
Cameroun, au final.
Voilà, exactement. C'est vraiment, on a eu tout ce que tu imaginais comme littérature classique française. Du 12e au 21e, enfin au 20e siècle, en tout cas au lycée. Et c'est vraiment très peu comparé à enfin, c'est beaucoup comparé à ce qu'on a eu, en tout cas en littérature africaine. Oui.
C'est bon qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, en fait. Quand tu vas au Mali, enfin, j'ai pas fait trouver des livres en Bambara, c'est pas chose facile au final.
Exactement.
Alors que trouver des livres en français, bon, ils sont là partout.
C'est une situation vraiment qui touche beaucoup de pays qui, en tout cas, sont considérés comme étant à la périphérie. Parce qu'on a un centre, on a une espèce de métropole, en tout cas en littérature française ou francophone. Le centre, c'est Paris. Et puis, le reste, c'est la périphérie. Donc, c'est un problème qui se rencontre aussi ici en Suisse, par exemple. La littérature suisse, elle est très peu connue des Suisses, ce qui est une aberration, en fait. Donc, enfin, voilà, heureusement, il y a quelques écrivains qui essayent un peu d'émerger, mais c'est très difficile de pouvoir les identifier comme des écrivains suisses, en fait, ou qui aient une littérature suisse. Donc, c'est vraiment la même chose qui se passe un peu au
La
Cameroun
francophone,
ou
oui.
au Mali, effectivement, ou dans d'autres pays africains qui ont été colonisés par la France pour l'anglais. Enfin, peut-être la situation, elle est un peu moins pour les pays francophones parce que là, il y a un véritable travail de nationalisation de l'enseignement, en tout cas à travers les œuvres de fiction ou bien de théorique. Voilà, c'est ça, de théorie critique.
Tu m'as parlé également d'un travail que tu faisais de ton mémoire. Est-ce que
Ouais.
tu peux m'en dire plus par rapport à ça?
Alors, en fait, j'ai fait donc un mémoire de master, enfin de master régulier sur l'écrivain Mongo Betsy, pour qui j'ai une admiration absolument éternelle, que tout le monde devrait lire, d'un côté. Et là, en fait, je finis une formation en technique de la communication écrite. C'est une formation continue, offerte par l'Université de Genève. Et donc j'ai eu la chance, la possibilité de faire le certificat et le diplôme. Et le diplôme se termine par un mémoire aussi, qui porte cette fois-ci, j'ai choisi le sujet de la danse africaine comme enfin l'expression danse africaine. J'ai décidé d'interroger cette expression que je trouvais véritablement problématique, que je continue de trouver très problématique. Et ça s'appuie en fait sur une expérience personnelle. À peine, enfin, quand je suis arrivée ici à Genève en 2012, on m'a proposé d'aller offrir un stage de danse africaine dans le cadre d'un festival, Passe la douane, le festival. Donc, je devais aller en France voisine pour offrir un stage de danse africaine. Je t'avoue que j'ai vraiment été complètement interloquée. Enfin, je ne savais absolument pas. Donc,
Qu'est-ce qu'il voulait dire?
voilà, c'est ça. Enfin, j'ai commencé un peu à regarder sur Internet. Je voyais des vidéos YouTube un peu de ce que ça veut dire danse africaine. Enfin, vraiment, je suis allée me renseigner parce que je ne comprenais absolument pas. Je fais effectivement de la danse, les danses traditionnelles camerounaises. Au Cameroun, il y a 10 régions. Pour se dire danseur traditionnel camerounais, il faut au moins maîtriser les 10 danses représentatives des 10 régions du Cameroun. Et moi, j'ai appris ça au sein d'une compagnie de danse traditionnelle. Tu vois, j'ai appris ces danses-là. Et j'étais capable de les enseigner. Mais tout à coup, on me demande d'enseigner de la danse africaine. Je suis allée, puis j'ai essayé de faire un truc qui n'avait pas beaucoup de sens. Et je me sentais vraiment malheureuse parce que je me sentais comme une imposteur à venir dire que tout à coup, je pouvais enseigner de la danse africaine. Et depuis lors, j'ai commencé vraiment à m'interroger. Mais sans plus vraiment sur la signification de cette expression-là. De faire ce diplôme en technique de la communication écrite m'a permis d'aller un peu plus en profondeur Surtout le fait que je rencontre de plus en plus de gens, de plus en plus de danseurs, et qui devient de plus en plus primordial pour moi de sensibiliser sur l'utilisation de cette expression. On a déjà eu la sensibilisation sur le fait de dire l'Afrique, enfin, l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent, enfin, les gens qui disent Japon, Afrique, enfin, ce genre de truc, qui établissent ce type de parallèle. Donc, moi, je me suis dit, allez, je vais aller un peu plus loin et je vais pouvoir dire aux gens, juste, danse africaine, ça ne veut absolument en soi rien dire. Et c'est effectivement ce que j'ai découvert dans mes recherches. L'expression danse africaine, elle est problématique à vraiment énormément de niveaux. Elle est stéréotypique sur le plan culturel et géographique. Et elle est vraiment la conséquence, enfin, c'est vraiment le symptôme et la conséquence à la fois d'une non-méconnaissance de ce que c'est que les danses africaines au pluriel. Et même avec les danses africaines. Enfin, c'est vraiment la charge accordée à l'adjectif africaine que j'ai clairement interrogé dans mon travail en explicitant pourquoi il fallait en fait arrêter de l'utiliser à tort et à travers pour justifier à peu près tout et n'importe quoi. C'est la catégorie danse africaine, c'est une catégorie qui a été clairement anthropologisée. Et il y a toutes les sources, en tout cas dans mon travail, qui montrent à quel point c'est vraiment pas du tout représentatif de ce qui se passe sur le continent. Les gens ont une idée, enfin, là juste te citer un exemple sur un site internet que je ne vais pas citer parce que ça m'a trop énervée. Une dame, elle fait tout un dossier sur les danses et elle dit de la danse africaine que c'est la danse dite des Noirs. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement grave parce qu'on va sur Google et on tape danse africaine, on tombe vraiment sur des définitions qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est très, très grave parce que Google, c'est vraiment le premier moteur de recherche que tout le monde va utiliser pour se renseigner sur ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment un problème. Mais pour pouvoir dire aux gens que c'est un problème, il faut pouvoir, comment dire, le justifier, il faut pouvoir l'argumenter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment décidé de travailler sur ce sujet-là.
Génial, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui m'a aussi toujours parlé parce que pendant beaucoup de la danse aussi, pendant des années, j'ai pratiqué les danses traditionnelles mandingues. Et c'est vrai que les gens étaient là, ah, mais tu fais la danse africaine. Non, mais en fait, ça veut rien dire ce que tu me dis. Le continent africain est énorme et au sein du continent africain, il y a
Exact.
des cultures, il y a plusieurs, au sein des pays même, il y a une diversité culturelle immense.
Mais
Alors
tellement,
non,
tellement.
je fais des danses traditionnelles mandingues. Donc
Mandingue, voilà.
c'est très précis, qui n'a rien à voir avec les danses camerounaises ou bien les danses sud-africaines que je ne connais pas du tout.
Du tout, du tout.
On pourrait transposer cette problématique à beaucoup d'autres thèmes, comme la
Exactement.
musique par exemple,
La littérature même, la
les
mode.
arts.
Oui, en littérature, il y a tout un mouvement justement qui tente de faire qu'on puisse supprimer en tout cas l'expression littérature africaine pour autre chose. Par exemple, il y a eu l'expression littérature monde ou la littérature africaine, mais en ce moment, c'est encore vraiment en train d'être discuté. Donc, c'est un débat qui va durer longtemps pour pouvoir parvenir à trouver un consensus. Donc, je veux dire, il y a une espèce de séparation un peu comme ça. C'est parce que tu es africain que tu fais de la danse africaine. Non, c'est pas du tout ça. Donc, il y a un déplacement de l'aspect purement artistique de la danse d'expression africaine, des danses africaines, vers un aspect géographique, un aspect lié à certaines capacités physiques, disons, parce que toute personne à qui tu demandes de décrire la danse africaine, il va te dire c'est une danse qui demande de l'énergie, de la souplesse, il faut être très endurant,
C'est
il
très
faut secouer
dynamique.
les fesses, tout absolument. Il y a une danse au Rwanda qui est absolument magnifique. C'est une danse, j'ai oublié le nom, enfin, il est assez imprononçable ce nom-là, mais c'est une danse qui est absolument magnifique et qui reprend en fait les mouvements. C'est très gracieux en fait. Il faut vraiment le voir exécuté par des dames. C'est une danse traditionnelle rwandaise. Et les dames, elles font des mouvements de bras extrêmement gracieux. Ça n'a rien à voir avec la représentation stéréotypique de la danse africaine comme une danse où on s'agite dans tous les sens comme si on était possédé par le démon. Donc,
c'est vrai.
En plus, il y a toute une valeur communicative, ritualisée derrière les danses qui sont pratiquées sur le continent. Dans plusieurs pays, il y aura une signification particulière, il y aura, mais qu'il faut, enfin, que les gens de la peine vraiment à comprendre et à étudier.
Est-ce que tu ne penses pas qu'avec avec la popularisation et le mélange de musique hip-hop et nigérienne, les gens se sont fait un peu une idée de la musique africaine comme, tu vois, cette fusion entre... En même temps, les danses qu'on voit, enfin, dans leurs clips, c'est tellement un mélange de beaucoup de choses différentes que...
Mais totalement, totalement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression remonte aux années. L'expression, ce qu'on a compris, c'est que son apparition, c'est dans les années 1970, donc 70, ici en Europe, en Occident. Mais il y avait déjà toute une compagnie de danse, les ballets africains guinéens, qui faisaient une tournée européenne déjà depuis 1950. Donc oui, clairement, il y a une forme d'hybridation des danses, des rythmes, de la gestuelle, des danses dites africaines qui se pratiquent sur le continent africain avec des rythmes aussi qui se pratiquent ici, qu'on peut entendre en tout cas en Europe, qu'on peut entendre aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par exemple, une danse, enfin une musique, la culture hip-hop, c'est une culture hybride, déjà dès la base. C'est une culture qui comprend en elle des mouvements de danse africaine. Donc, déjà dès la base, c'est ça. Et ce qu'il faut enfin comprendre, c'est que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, l'hybridation entre tous ces mouvements, entre tous ces rythmes musicaux, c'est le résultat juste de la rencontre entre les gens. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait une évolution. Maintenant, ce qui est anormal, c'est que tout ça soit effectivement mis sous l'appellation
Danse
danse africaine.
africaine,
En fait, c'est ça qui est complètement anormal. Alors que il y a des danses africaines avec des techniques précises, avec des moments de représentation précis, avec voilà des formes d'enseignement ou bien de réception précises qui existent, mais ces danses ne sont absolument pas visibles, elles ne sont pas connues. Et ceux qui la pratiquent ne la pratiquent pas sur Internet ou sur YouTube. Ce qui se pratique actuellement sur Internet, sur YouTube, c'est la rencontre entre des diverses formes, entre des sensibilités.
Dis-moi, est-ce que à travers cet engagement, tu as dû faire face à beaucoup d'hostilité parce que lorsqu'on promouvoit un discours qui va à l'encontre du discours dominant, un discours beaucoup plus égalitaire d'opposants, certaines personnes prennent les choses très personnellement, en fait, et ne comprennent pas que la démarche est tout autre, en fait, et que ça n'a rien à voir avec leur expérience de vie. Et je me demande si tu as dû faire face à beaucoup de... Que ce soit par rapport à la danse, que ce soit par rapport à tes autres engagements. Par exemple, tu parlais plus de la littérature...
Engagé. Alors, bon, en tout cas, ce qui concerne l'expression danse africaine et mes recherches là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que, comment dire, j'ai anticipé les réactions hostiles. Donc, quand je parle systématiquement de cette expression, c'est que je m'appuie d'abord sur mon expérience personnelle et ensuite sur des recherches. C'est pour ça, donc, je contre dès le départ toutes les réactions hostiles. J'avais fait une expérience, j'ai fait deux expériences. Une première sur ma page Facebook où j'ai écrit un post, j'ai juste écrit un truc, un petit message. Cherche prof de danse européenne pour un cours, ah mais je te jure, pour un cours de 18h à 20h demain. Rémunéré, MP, si intéressé, admet. Très sérieusement.
Excellent.
Ah oui, non, mais alors, enfin, voilà, c'est ça, parce que je me suis dit, si je commence à agresser les gens tout à coup en disant, mais ça se dit pas, danse africaine et tout, non, je vais juste montrer l'absurdité d'employer cet adjectif en retournant complètement la chose. Ne pas être dans un rapport, comment dire, de
De
confrontation, mais
confrontation.
effectivement dans un rapport d'interrogation. Je me suis d'abord positionnée en tant que personne qui n'avait pas du tout les réponses, qui elle aussi a employé en plus cette expression. Je l'ai employée jusqu'à il y a 2 ans en arrière. Je l'employais même certaines fois. Ça sort encore. Hein, tout, vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris pendant plein d'années. Ça ne va pas juste partir. Donc, je l'ai employée énormément. je le reconnais. Et c'est vraiment ça, c'est que je dis, moi non plus, j'ai pas la réponse, je mets la question sur la scène publique, discutons-en en fait. D'où le fait de devoir faire ce travail. Pour moi, c'était vraiment limite un devoir. Franchement, hostile, non, je n'ai pas eu, mais des discussions enflammées sur le fait que il faut maintenir cette expression, ça j'ai eu. Concernant aussi la littérature, et c'est clair, on fait un truc extrêmement, enfin, c'est limite très dangereux ce qu'on fait. De nouveau, maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de se dire qu'on se dédouane en fait de toutes les considérations politiques externes à ce que nous, on veut mettre en avant. Donc, c'est-à-dire, il y a un collège de lecteurs qui décide que, voilà, enfin, il y a un premier collège de lecteurs qui décide d'une sélection d'un choix de livres qu'ils ont beaucoup aimé, en prenant en compte beaucoup de critères. Donc, il n'y a pas qu'un seul critère c'est-à-dire la dimension ultra engagée. Non, il n'y a pas que ça. Ensuite, il y a un collège de spécialistes, c'est-à-dire des enseignants, des journalistes, des critiques littéraires, beaucoup d'enseignants, des écrivains. Enfin, on a eu dans le jury, par exemple, il y a Monsieur Boubacar Boris Diop, il y a Madame Ken Bougoul, il y a Monsieur Ambroise Combes, il y a Monsieur Théo Ananissot. Donc c'est ça, c'est ce sont il y a la docteure Hortense Simeus. C'est vraiment des grosses têtes de la littérature en fait. Et donc c'est à partir de ça qu'on peut vraiment se positionner et dire, écoutez, on comprend bien qu'il y a tous ces problèmes, mais nous, on a aimé ce livre, on décide de le récompenser. La deuxième année de la remise du prix, enfin, les trois premiers romans qui ont été récompensés, ce sont des romans qui réveillent des problématiques sociales et politiques extrêmement dures et extrêmement contemporaines encore aujourd'hui. Le premier roman parlait de la guerre du Cameroun, une guerre qui restait taboue. On n'en sait absolument rien du tout au Cameroun, alors qu'elle a eu lieu en 58. Elle implique la France et le gouvernement actuel camerounais. Le deuxième roman, là, carrément, l'écrivain a été exilé, il a dû fuir son pays parce qu'il y a une fatwa sur sa tête au Soudan, Abdelaziz Baraka Sakine. Il y a une fatwa, le premier roman a été écrit par Mleboum, le deuxième, Abdelaziz Baraka Sakine, qui parle de la guerre qui se déroule en ce moment encore au Sud-Soudan. Et le troisième roman, là, c'est un Jamaïcain qui parle des rapports, en fait, entre les Blancs et les Noirs, entre. Enfin, voilà, toutes ces questions-là sont toujours des questions extrêmement actuelles, extrêmement vives, extrêmement difficiles, mais on s'en sort d'une certaine manière parce que finalement, ce qu'il y a derrière, c'est on voudrait, nous, pouvoir prendre la parole, nous, c'est-à-dire les Africains, pouvoir prendre la parole et dire, voici le choix du livre qu'on décide de faire pour voilà, promouvoir cet écrivain. Exactement.
J'ai envie de parler d'un autre art
Oui.
qui t'est cher. J'ai envie de parler de photographie.
Oui.
Bah, comment est-ce que tu as commencé? J'ai vu que tu as organisé plusieurs expos photos. Comment est-ce
Oui.
que tu as commencé la photographie? Quels sont les thèmes que tu privilégies à travers cet art? Et qu'est-ce que la photographie signifie pour toi au final?
La photographie. La
J'ai
photographie.
lancé plein de questions.
Alors là, mais là, je pourrais parler jusqu'à demain. La photographie. Non, mais vraiment, enfin, déjà il y avait eu la littérature, déjà il y a eu la danse qui m'ont sauvé la vie. Donc à plusieurs périodes, enfin la période de l'adolescence, c'était vraiment clairement la littérature. Puis un peu plus tard, quand on se construit en tant qu'adulte, ça, enfin, j'ai eu des problèmes de poids, de surpoids, et ça a été la danse. La danse m'a permis de dire, écoutez, c'est pas parce que je suis grosse que je peux pas danser. En plus, j'ai du talent, donc essayez de faire mieux. Vous qui êtes une femme, de confiance en moi, c'était ça. Mais plus tard, enfin, en tant qu'adulte maintenant et en tant que femme qui doit maintenant trouver sa place dans le monde, j'ai souffert de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. En gros, c'est un syndrome qui fait que peu importe ce qu'on fait de bien, on n'arrive pas à le reconnaître nous-mêmes que c'est bien et on voudrait en faire plus. Ou alors, en fait, on n'arrive pas à vraiment se féliciter. On n'arrive pas à entendre les félicitations, on n'arrive à rien entendre. On se dit qu'on n'a pas notre place. Que quelqu'un va s'en rendre compte. Moi, je me disais que moi, j'ai pas ma place à l'université de Genève et que quelqu'un va s'en rendre compte un jour et puis qu'on va me renvoyer au Cameroun. Donc, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je réussissais les examens. Je ne comprenais pas pourquoi, enfin voilà, que je réussissais les choses parce que j'avais l'impression que c'était pas moi en fait ou que c'était de la chance. ou quand je ne réussissais pas, je me disais que je n'avais pas assez travaillé pour ça, en fait. Et donc, la photographie est arrivée à ce moment-là. J'en faisais déjà un peu depuis plusieurs années, mais sans vraiment être spécialisée là-dedans. J'emmerdais juste le monde entier pour prendre des photos à tous les événements possibles. Et puis un jour, j'ai fait la rencontre d'un photographe de danse. Enfin, un photographe, il va me taper s'il entend que je dis que c'est un photographe de danse. C'est pas qu'un photographe de danse, c'est un photographe qui s'appelle Dominique Shine, Dom Shine Omar Payette. Et j'ai fait sa rencontre ici à Genève. Il est venu dans le cadre d'un événement et puis il a pris des photos, un événement de danse, et puis il a pris des photos, mais extrêmement sublimes, mais magnifiques. Enfin, je suis tombée en amour devant ces photos et devant le photographe. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il va me taper. Mais voilà, j'ai juste extrêmement adoré ces images. Et c'est la rencontre avec lui, c'était en 2014. Ça a coïncidé avec le moment où je décide de partir au Cameroun pour faire le voyage d'échange entre les danseurs de Suisse et du Cameroun. À ce moment-là, je me dis, la photographie de danse, elle commence aussi vraiment à émerger à ce moment-là. Et je me dis, peut-être ce serait bien si je pouvais aussi prendre de belles photos au Cameroun pour pouvoir... parler de ce que je vais faire là-bas, mais pas des photos juste tout pourries avec le Motorola M2 qu'il y avait à l'époque, enfin, je sais pas. Non, pas juste iPhone 1, je sais plus trop quoi exactement. Non, pas des photos tout pourries, toutes floues et tout, vraiment de belles photos comme ce que ce photographe prenait. Bon, il faut dire que ce photographe a quand même 15 ans d'expérience de plus que moi, limite. Non. Moi, j'étais là, ok, je vais faire des photos comme lui. Non. Donc, j'investis dans mon premier appareil photo, un D360, un Canon. Et donc, c'est à ce moment-là que je fais vraiment des photos au Cameroun. Et en parallèle, j'avais vu, il y avait eu tout un discours. Depuis que je suis arrivée ici en Europe, je me rends compte qu'il y a tout un discours sur l'Afrique qui ne me plaît absolument pas. Un discours qui met l'Afrique vraiment dans un état... Donc, on ne peut pas parler avec les Européens sur le même pied d'égalité. Ou alors qu'ils parlent de l'Afrique, d'une Afrique que je ne comprends pas, en fait, que je ne connais pas, surtout d'un Cameroun que je ne connais pas, dans lequel j'ai grandi. D'un Cameroun, surtout dans la ville où j'ai vraiment fait toutes mes classes. Enfin, je suis devenue adulte là-bas et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas mieux. Et je me suis dit, en parallèle de faire des photos pour l'événement de danse, ben, je pourrais aussi faire des photos... du Cameroun, en fait, comme je le vois, voilà, comme je le conçois un peu, voilà, c'est ça. Donc, en fait, je fais la première exposition photo, mais elle n'est vraiment pas professionnelle, hein. C'est vraiment juste un petit ressenti. Je me dis, ok, je vais faire des photos comme ça. Je fais la première exposition photo qui parle du Cameroun sans phare ni chichi. En gros, c'est ça, je ne déguise pas le Cameroun, je montre ce que moi je vois, comment est-ce que je perçois mon pays, comment est-ce que je perçois l'Afrique, c'est comme ça que je le perçois, tu vois. Je l'aperçois. Et de l'autre côté, donc, je fais une deuxième exposition photo sur les danseurs, les visages de la danse, ce que ça représente, comment... parce que les danseurs, ils détestent beaucoup, moi, en tant que danseuse, je sais que j'ai commencé la danse parce que je détestais qu'on voie au fond de mon âme. Et mon âme pouvait passer par ma bouche ou par mes yeux, donc je préférais le mouvement pour pouvoir bouger dans tous les sens et que les gens ils devinent pas ce qui est au fin fond de moi. Et donc j'ai fait une exposition photo où je prenais des photos rapprochées en fait des visages des danseurs. Ça c'est vraiment les deux expositions photo. Mais ma photo elle s'est de plus en plus développée. Et c'est vrai que la photographie a ceci de magique, c'est que souvent je sors en fait dans la rue et tout simplement je shoote, voilà, je shoote tout simplement.
T'as fait une formation par la suite?
Alors, avant de partir au Cameroun, j'avais fait une formation de 6 mois avec un photographe, Denis Ponté, mais c'était pas vraiment, c'était plutôt sur le cadrage, sur le reportage photographique, donc c'était pas véritablement sur comment s'est servi de mon appareil. J'ai fait une formation YouTube, plutôt, c'est énormément de vidéos YouTube. J'ai regardé énormément de vidéos YouTube. Et surtout, le plus important, j'ai pratiqué. Donc, des heures et des heures et des jours durant, je suis allée dehors et je marchais des kilomètres pour pouvoir juste shooter. Et ensuite, regarder mes photos et pouvoir dire ce qui passait ou ce qui ne passait pas. Et au fur et à mesure, trouver mon identité, en fait, derrière, savoir ce que j'aimais bien ou ce que je préférais moins. Par exemple, ce que j'aime bien, c'est vraiment ces photos instantanées de vie, qui racontent vraiment juste un petit moment qui semble insignifiant pour certains, mais qui pour moi rappelle l'émotion ressentie sur le moment ou la luminosité ressentie sur le moment, l'espèce de paix intérieure, parce que c'est ce que ça m'apporte, surtout la photographie, ça m'apporte beaucoup de paix quand je la pratique. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment la photographie pour cette dernière étape un peu de ma vie. Elle m'a juste apporté l'alignement qu'il me fallait entre moi et mes œuvres. Voilà. Donc, la première reconnaissance pour mon travail, enfin, la première personne à reconnaître son travail, c'est-à-dire, devait être moi. Et c'est ce que ça m'a apporté.
Pour ceux qui nous écoutent et qui sont
Oui.
passionnés d'art, se professionnaliser, enfin essayer de se professionnaliser dans son art lorsque notre travail principal n'est pas directement en lien avec ces activités-là. Comment organiser son temps et comment essayer de se professionnaliser d'art?
La première chose que je pourrais dire, par exemple, c'est effectivement de trouver d'être soi-même la première personne à se féliciter. D'abord, de ne pas se prendre la tête. D'abord, de trouver sa propre voie. C'est important. Mais pour trouver sa propre voie, il faut travailler. La deuxième chose, c'est ça. Ça demande énormément de travail. Il faut pouvoir s'impliquer à fond. Et pour pouvoir s'impliquer à fond, il faut ressentir ce dans quoi on se lance comme si c'était une mission, carrément. Voilà. Parce que souvent, moi, je suis convaincue par le fait que chaque être humain sur la planète Terre a une mission. Par exemple, toi, tu prends carrément de ton temps un lundi après le travail pour pouvoir vraiment, vraiment interroger des personnes. Enfin, tu as ce magnifique site internet, tu as tout ce travail-là de
Merci.
récolte des expériences des femmes qui essayent de faire bouger les choses. C'est beaucoup de travail, il faut préparer tout ça. Tu te sens investi de cette mission-là. Donc, c'est comme tout le monde pour moi a une mission, mais en fait, il faut la trouver. Et pour la trouver, il faut se mouiller. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de mouiller sec. Enfin, mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Il faut aller au fond, il faut aller chercher. Et pour aller chercher, il faut être curieux. Voilà. Finalement, c'est ce qui résume, par exemple, moi, personnellement, mon parcours, c'est que je suis une grosse curieuse et je vais chercher. Je vais chercher dans toutes les directions. Je fais de la photo, je fais de la danse, je fais de la littérature, je fais du montage vidéo, je fais du montage audio, je fais des sites internet, je fais plein de trucs, mais je cherche dans énormément de directions pour pouvoir trouver ce qui me touche moi personnellement, en fait. Parce que souvent, on peut se dire, OK, moi, c'est peut-être dans cette direction-là que je me sens. Et puis, tout à coup, complètement perdre pied parce que on ne se sent plus là-dedans. Et ce serait dommage, en fait, de ne pas avoir cette petite roue de secours-là pour pouvoir aller ailleurs. Mais une fois qu'on a trouvé vraiment ce dans quoi on se sent bien, il s'agit vraiment de s'y tenir, il s'agit vraiment de construire tout son, enfin, pas tout son univers, non, mais de construire un univers qui est bien à soi, qui est bien, pas les autres, enfin. C'est vrai que dans le domaine, l'art est extrêmement subjectif en fait. Et on passe vraiment son temps à essayer de trouver l'approbation des autres, l'approbation paternelle. Enfin, c'est le mythe du père. On essaye de trouver chez les autres cette approbation, je suis fière de toi. Mais en fait, la première personne à devoir dire je suis fière de toi, c'est d'abord soi-même. Et c'est en fait ça, c'est comment trouver cette paix intérieure-là. Parce qu'à partir du moment où on aura ça, on sera vraiment complètement armé pour pouvoir aller à la rencontre de ce qui va nous permettre vraiment, enfin, peut-être de se professionnaliser. Parce que pour se professionnaliser, ça demande vraiment des prérequis, enfin, pas des prérequis, non, ça demande, une fois qu'on est là-dedans, qu'on puisse être capable de dire oui ou de dire non, d'accepter ceci ou de ne pas accepter cela, de pouvoir, voilà, de faire des choix. Or, faire un choix, c'est assez compliqué si on ne se connaît pas déjà soi-même. Donc, la première chose à faire, c'est de se connaître soi-même.
Ton énergie est vraiment inspirante, mais je me demande du coup comment est-ce que tu trouves le temps pour te lancer dans ça. Pas seulement les faire, parce que certaines personnes qui font pas mal de choses, mais qui ne les font pas complètement. Mais toi, j'ai vraiment l'impression que tu t'es vraiment très investi, tu t'investis à fond de t'investir
Franchement.
autant.
Souvent, je me pose la même question. Mais en fait, non. Non, alors, en fait, ce que j'ai compris, c'est que on a toujours le temps. Vraiment. On a toujours beaucoup, beaucoup de temps. Même si c'est la denrée la plus chère au monde et celle qu'on ne retrouve jamais, qu'on ne peut pas acheter, on a quand même toujours le temps.
Pour
Mais en fait, on a
s'investir
le temps.
autant dans, pour s'investir
Oui.
autant dans autant de projets, tu crois? Parce que moi, je
En
pense
fait,
qu'on a du temps,
oui.
effectivement, mais en même temps, pour s'investir dans autant de choses, je sais.
C'est beaucoup d'organisation aussi, j'avoue, c'est énormément d'organisation, vraiment, parce que à côté, j'ai une vie familiale, à côté, j'ai une vie sociale, bon, j'ai une grosse vie sociale, hein, je sors énormément, j'ai des potes et tout. Donc, voilà, c'est ça. Mais après, c'est une question de choix. C'est une question de se dire, OK, bon, alors si je décide de sortir aujourd'hui, il va falloir que je sache que demain, ça va me coûter cher. Donc, quel est le choix que je décide de faire? Bon, ben, c'est qu'avant de sortir aujourd'hui, je vais être ultra efficace en 2 heures et faire ce que j'ai à faire, en fait. C'est ça. C'est vraiment s'organiser. C'est, j'ai 5 agendas limites où je, vraiment, je case tout ce que j'ai à faire. Non seulement s'organiser, mais certaines fois s'arrêter complètement. Dire, OK, stop, là, je prends une pause. Parce que, une personne fatiguée, c'est la personne la moins productive du monde. On peut être très productif à condition de s'être reposé. Donc, en fait, c'est vraiment un équilibre entre tout ça. Pouvoir s'organiser, pouvoir dire que je peux mettre du temps dans ceci parce que j'en ai envie, pas parce que c'est une contrainte, parce que tout ce qui est ressenti comme une contrainte, c'est vraiment pas bon. Pouvoir dire je peux mettre du temps dans ceci parce que c'est parce que j'en ai envie, le faire véritablement, mais aussi pouvoir s'arrêter de temps en temps, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça demande énormément de temps. Ça, je l'ai bien senti passer quand on faisait le projet de voyage au Cameroun. Parce que là, il fallait vraiment être. Enfin, en même temps, je faisais mon master. En même temps, j'étais en plein d'associations. Enfin, voilà. Mais de l'autre côté, quand même, c'était vraiment. Je respire un bon coup et puis j'y vais. De pouvoir. J'ai des plages horaires aussi de travail. Enfin, on a beaucoup d'heures dans la journée. Je les utilise. Après, c'est vrai que. Certaines fois, je peux être complètement casanière et puis je vais rester à la maison et je fais vraiment ce que mon travail. Aussi, autre chose, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas très fanatique, par exemple, de tout ce qui pouvait être chronophage. Par exemple, traîner sur YouTube, je suis 9gag, je ne dis pas ça contre les gens qui aiment bien faire ça, c'est leur manière d'être et de vivre et c'est très bien. Moi, c'est que je n'arrive pas en fait. C'est que à partir du moment où je dois faire, où je. Mais les moments de repos pour moi s'apparentent à des moments où je dois encore être en train d'apprendre quelque chose. Je veux dire, quand je fais le ménage chez moi, je le fais en écoutant un documentaire. Ou regarder une vidéo pour me poser. En fait, c'est une vidéo YouTube sur comment faire pour régler la lumière naturelle et la lumière artificielle. Enfin, tu vois un peu des trucs comme ça. C'est que j'apprends de manière ludique. Voilà, c'est ça. L'apprentissage, énormément de possibilités de se développer, de s'enrichir. On continue. Et pour moi, c'est super important de faire ça. Mais c'est vrai que de l'autre côté, certaines fois, il faut juste pouvoir s'arrêter et décompresser. Et c'est à ça que servent, par exemple, les amis.